RFI, 23h30 à Kinshasa, minuit et demi à Khartoum, 22h30 en temps universel.
Afrique Soir.
Bonsoir Zéphirin Quadio.
Bonsoir Charlotte Derouin, bonsoir à toutes. À la une de cette demi-heure d'info africaine en République démocratique du Congo, situation toujours tendue à Goma depuis l'entrée en ville des rebelles du M23, appuyés par l'armée rwandaise. Les affrontements qui les opposent à des éléments des FARDC se sont poursuivis ce lundi, notamment au sud de l'aéroport. La communauté internationale multiplie les initiatives pour une sortie de crise. Le conflit sera d'ailleurs mercredi au centre d'un sommet extraordinaire de l'EAC, la communauté des États d'Afrique de l'Est, annonce faite cet après-midi par le chef de l'État kényan qui préside l'organisation depuis novembre. Selon William Ruto, ses homologues congolais et rwandais se sont engagés lors d'entretiens bilatéraux à être présents. Et puis au Gabon, multiplication des réactions à l'annonce de la date de la prochaine présidentielle, annonce faite la semaine dernière. Le scrutin se tiendra le 12 avril prochain. Un calendrier électoral accéléré qui contraint les acteurs à se positionner. Un leader syndical également sénateur de la transition a d'ailleurs annoncé le lancement de son parti politique. Et puis le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, de retour à Khartoum. Il a retrouvé son quartier général dans la capitale soudanaise. Il était replié depuis plus de 20 mois à Port-Soudan. Ce retour signe aussi sa plus grande victoire depuis la reconquête de la ville d'Omdurman. Les autorités congolaises, l'ONU et les ONG redoutaient que des affrontements se déroulent à Goma. Le M23 poursuit en tout cas son offensive pour prendre le contrôle total de la capitale du Nord Kivu. Certaines positions stratégiques restent cependant encore sous le contrôle des FARDC. Des tirs sporadiques ont été entendus ce lundi dans plusieurs quartiers de Goma avec une tension persistante. Une ville où 1 million d'habitants et 700 000 déplacés se retrouvent aujourd'hui coincés, isolés, selon OCHA. Difficile d'établir un bilan des combats, mais les centres de santé, notamment l'hôpital provincial du Nord Kivu, sont déjà saturés. Le récit de Guillaume Thibault.
Les balles sifflent, mais les soins sont effectués. Face à l'afflux de blessés, les médecins n'ont pas le choix. Ils doivent faire le tri, donner la priorité à ceux qui peuvent être sauvés, comme l'explique cet urgentiste.
Malheureusement, nous avons pu enregistrer beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas jusque-là. On essaie un peu de faire ce qu'on peut, de trier donc ceux qui peuvent être encore sauvés. C'est comme ça.
Faute d'ambulance, les blessés, notamment de nombreux enfants, sont amenés à l'hôpital par leur famille.
Je tiens à signaler que toutes les blessures, en tout cas, sont des blessures par balle. Par exemple, il y a un bébé de 2 mois qui a été touché, il y a une adolescente aussi. L'un de nous, d'un de nos camarades, qui a été même touché, on vient à peine de le stabiliser. En tout cas, c'est catastrophique.
Ce médecin lance un appel à l'aide et à l'arrêt des combats pour faciliter l'accès aux soins.
Nous lançons juste un appel à la communauté internationale, au gouvernement congolais, afin d'intervenir. Tout ce que nous voulons, c'est revenir à la paix parce qu'on ne saura pas soigner. Tout se blesser, tout le monde craint à sa vie.
Malgré le manque de personnel, de matériel, notamment de poches de sang pour les transfusions, l'équipe de l'hôpital provincial du Nord Kivu enchaîne les actes de chirurgie sans discontinuer depuis dimanche soir.
Récit signé Guillaume Thibault. Situation très tendue également à la frontière entre la ville rwandaise de Gisenyi et Goma. Lucie Mouillot, notre correspondante dans la région, était à Gisenyi où des échanges de tirs ont été entendus toute la journée.
Depuis tôt ce matin, on entend depuis Gisenyi des échanges de tirs intenses et de mortiers de part et d'autre de la frontière, plus sporadiques depuis le début de la soirée. Le porte-parole de l'armée rwandaise, le brigadier général Ronald Ruivanga, a confirmé que plusieurs bombes et des balles perdues sont tombées dans la ville. Il affirme pour l'instant avoir enregistré 5 morts civils et 24 blessés du côté rwandais de la frontière. Ici, plusieurs commerces et la majorité des écoles n'ont pas ouvert ce matin, après une nuit agitée par de fortes détonation autour de Gisenyi. La petite barrière, point de passage des commerçants transfrontaliers, est l'une des zones de forte tension au cours de la matinée, est elle aussi restée fermée. Au niveau de l'autre poste frontière avec Goma, la grande barrière, plus de 1000 personnes, agents civils des Nations Unies et leurs familles, ont été évacuées dans des bus vers Kigali, une frontière où l'armée rwandaise affirme que plus d'une centaine de soldats congolais, FARDC et alliés ont déposé leurs armes au cours de la journée. Lucie Mouillot, Gisenyi, RFI.
Et c'est dans ce contexte que le secrétaire adjoint aux opérations de maintien de la paix et le coordinateur humanitaire de l'ONU ont fait un point sur la situation aux journalistes des Nations Unies à New York. Jean-Pierre Lacroix et Bruno Lemarquis sont restés très prudents face à des dynamiques, selon eux, très fluides. Correspondance à New York, Karine Houghton.
Ils ont confié qu'il était encore très compliqué d'évaluer exactement combien de soldats rwandais et de miliciens du M23 étaient entrés dans Goma. Ils ont parlé de 3-4 000 hommes et surtout d'équipements massif, ce qui leur a permis d'effectuer des avancées majeures ces dernières heures. La priorité des casques bleus, c'est déjà de sécuriser le personnel civil de l'ONU, environ 1700 personnes. Certaines ont été transférées à Kinshasa, d'autres sur une base en Ouganda, et surtout de sécuriser les installations des Nations Unies, avec la pression supplémentaire de protéger les civils congolais et les membres armés qui ont demandé protection. Côté diplomatique, Jean-Pierre Lacroix l'assure, les contacts sont maintenus et répétés, tant avec la République démocratique du Congo qu'avec le Rwanda. L'ONU répète que la priorité est d'éviter de faire plus de victimes dans un contexte sécuritaire déjà très détérioré et elle soutient pleinement l'initiative diplomatique de l'Union africaine de réunir les présidents Tshisekedi et Kagame mercredi. Karine Houghton, New York, RFI.
Effectivement, la communauté internationale reste très attentive à ce qu'il se passe en République démocratique du Congo. La situation qui prévaut actuellement dans l'Est sera, comme vient de le dire Karine Houghton, sera mercredi au centre d'un sommet extraordinaire de l'EAC, la communauté des États d'Afrique de l'Est. C'est le chef de l'État kényan à la tête de l'organisation depuis novembre qu'il a annoncé cet après-midi. Selon William Ruto, les présidents congolais et rwandais Félix Tshisekedi et Paul Kagame se sont engagés lors d'entretiens bilatéraux à être présents. Mais les confirmations de Kinshasa et Kigali sont toujours attendues à Nairobi. La précision de Gaël Alex.
Pour William Ruto, il n'y a pas de place pour une solution militaire dans l'est de la RDC. Le président kényan demande donc des discussions avec le M23 et toutes les parties sans plus de précision. Interrogé sur la présence de troupes rwandaises dans l'est de la RDC et le risque que cela compromette les discussions, le président botte en touche.
La situation est déjà très compliquée, donc la présence de forces de sécurité d'où qu'elles viennent ne rend pas les choses plus complexes. Cette situation dure depuis 30 ou 40 ans. Il y a une mission de la paix de l'ONU sur place depuis 20 ans. Il y a eu des forces de la communauté est-africaine qui sont venues et reparties, des forces de la SADC qui sont venues et vont peut-être repartir, donc c'est une situation compliquée.
Le Kenya a déjà tenté de jouer les médiateurs dans le dossier de l'Est de la RDC, mais le processus de Nairobi, lancé en 2022 par le président de l'époque, Uhuru Kenyatta, a fait chou blanc l'année dernière, Kinshasa suspectant le Kenya d'avoir pris le parti de Kigali. Gaël Alex, Nairobi, RFI.
RFI à Libreville, 104 FM.
Au Gabon, de nombreuses déclarations politiques ce week-end après l'annonce en milieu de semaine dernière de la date du 12 avril pour l'élection présidentielle. Ce calendrier électoral accéléré contraint donc les acteurs à se positionner. François Mazet, hier dimanche, le leader syndical Jean-Rémi Yama, également sénateur de la transition, a annoncé le lancement de son parti politique.
Le Parti national pour le travail et le progrès est un nouveau vaisseau pour un nouvel engagement, a dit Jean-Rémi Yama. Sorti de prison à l'issue du coup d'État, le leader de la coalition syndicale Dynamique Unitaire ne s'est pas prononcé sur une éventuelle participation à la présidentielle, évoquant tout à la fois son soutien à la transition jusqu'à son terme et les relations incestueuses entre les militaires du CTRI et le Parti démocratique gabonais. L'ex-parti au pouvoir qui réserve également sa stratégie et le choix de son candidat pour l'élection, même si beaucoup d'acteurs et d'analystes pensent voir le PDG soutenir le chef de la transition. La secrétaire générale du parti, Angélique Ngoma, a salué la date du 12 avril, un acte de raccourcissement du calendrier permettant un retour plus diligent à l'ordre constitutionnel tant attendu, a-t-elle déclaré. Devant la presse, de son côté, Alain-Claude Bilibinzé a entretenu le suspense autour de sa candidature. Devenu opposant, le dernier Premier ministre d'Ali Bongo a affirmé qu'il ne se déroberait pas et qu'il donnerait sa réponse avant le 12 mars. Selon lui, le scrutin a été avancé en raison de l'impopularité grandissante du général Oligui Nguema. Il y voit un système qui refuse de mourir et ressuscite sous le signe du CTRI.
François Mazet, autre lieu, autre scrutin au Tchad. Les élections sénatoriales se tiendront le 25 février prochain, annoncées par l'Agence nationale de gestion des élections. Scrutin crucial, hein, puisque c'est la dernière échéance de la transition politique entamée à la mort du président Idriss Déby Itno. C'était en avril 2021. 21 mois après le début de la guerre au Soudan, le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan, a retrouvé dimanche son quartier général à Khartoum. Les paramilitaires des forces de soutien rapide s'étaient retirés de la capitale face à l'avancée de l'armée. En reprenant Khartoum, le général al-Burhan décroche sa plus grande victoire depuis la reconquête de la ville d'Omdurman. Le récit d'Ouda Ibrahim.
Nos forces sont au meilleur de leur forme, a déclaré le général al-Burhan dans le quartier général fraîchement repris. Il a ajouté que les FSR, dirigé par son rival Mohamed Hamdan Daglo, était condamné à disparaître selon une vidéo diffusée par l'armée. Des images partagées sur les réseaux sociaux montrent la jonction entre l'armée postée à proximité du quartier général et les troupes venant de Khartoum Nord ainsi que celles venant d'Omdurman. Selon des témoins, l'armée soudanaise contrôle désormais la majeure partie de Bahri, la partie nord de Khartoum, ainsi que le nord d'Omdurman. Elle tient aussi la base du corps armé du sud de la ville. Ce développement constitue, selon plusieurs observateurs, un revirement majeur dans cette guerre. L'avancée de l'armée dans Khartoum suit de quelques heures seulement la reprise de la raffinerie de Jili, la plus grande du pays au nord de la capitale et qui était contrôlée par les FSR depuis le début de la guerre en avril 2023. Il y a deux semaines, l'armée avait repris le contrôle de Wad Madani, capitale de l'État d'Al Jazeera, avoisinant Khartoum, privant ainsi les FSR d'un carrefour clé de ravitaillement.
Un récit signé Ouda Ibrahim. Et puis le Soudan du Sud a annoncé ce lundi la levée du couvre-feu nocturne imposé au début du mois après une manifestation anti-soudanaise qui a dégénéré en pillage. Il y a 10 jours, effectivement, des manifestations avaient éclaté à Djouba, la capitale, à la suite d'informations selon lesquelles des affrontements au Soudan voisin avaient tué 29 Soudanais du Sud. La manifestation avait ensuite dégénéré en pillage de commerce appartenant à des Soudanais. Premier grand discours du président libérien depuis son arrivée au pouvoir il y a un an. Joseph Boakai s'est exprimé à l'Assemblée nationale devant le bâtiment du Capitole ravagé par les flammes le mois dernier. Un incendie criminel sur lequel le président n'est pas revenu. Il n'a pas non plus mentionné les tensions actuelles au sein de l'Assemblée nationale où une quarantaine de députés demandent la démission du président de la Chambre des représentants. En préambule de ce discours de plus d'une heure, le président a eu des mots durs sur la sécurité et la lutte contre la corruption dans le pays. Retour sur les grandes lignes de cette allocution présidentielle avec Willy Diallo.
La sécurité de l'État et le caractère sacré de notre République, bien qu'ils puissent être attaqués ou encore menacés, ne pourront jamais être brisés. Ils seront préservés et aucune ambition personnelle ne pourra jamais surpasser l'importance de notre paix et de notre sécurité. L'année dernière, j'ai parlé avec candeur de la corruption qui perdure et ternit notre réputation. Un nouveau départ est nécessaire. Un Libéria où la transparence et la responsabilité sont les pierres angulaires de notre gouvernement. Mais si la corruption reste un adversaire redoutable, il faut quand même reconnaître les progrès que nous avons accomplis. Les citoyens sont de plus en plus conscients de la corruption et prêts à la dénoncer. Ainsi, après un an de mandat, nous pouvons dire en toute confiance que l'état de la nation est meilleur que lorsque nous avons commencé.
Une grève d'une semaine dans les universités maliennes. Le mouvement de contestation des enseignants-chercheurs du supérieur a débuté ce lundi et doit se poursuivre jusqu'à samedi. La coordination des syndicats de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a engagé cette action pour défendre des revendications salariales. Les syndicats indiquent avoir subi des pressions des autorités de transition, mais ont maintenu cependant leur mouvement de grève, dont la première journée a été particulièrement suivie, David Bachet.
Les syndicats n'ont pas communiqué le pourcentage de grévistes, mais les enseignants-chercheurs joints par RFI, certains syndiqués et grévistes, d'autres non, font état d'un mouvement très largement suivi, particulièrement dans les universités de Bamako, de Ségou et dans les grandes écoles. Quelques exceptions sont cependant rapportées. Sollicité par RFI, le ministère malien de l'enseignement supérieur n'a pas souhaité commenter. Les enseignants-chercheurs maliens réclament le versement de leurs primes de recherche à la laquelle ils ont droit depuis 2017. La semaine dernière, les représentants syndicaux ont rencontré les ministres de l'enseignement supérieur et du travail. Ils sont repartis convaincus de la mauvaise volonté, selon eux, du gouvernement de transition. Si la revendication est purement sectorielle, cette grève est un indicateur du climat social dans le pays. Les enseignants-chercheurs maliens luttent pour une prime créée il y a déjà 8 ans et qui, dans le contexte économique actuel, leur apparaît plus nécessaire que jamais. La recherche a un coût que le salaire ne saurait supporter, pose un cadre du secteur universitaire, lui-même gréviste. Les syndicats font également état de pressions exercées à leur encontre. Une conférence de presse prévue en amont de la grève a été annulée pour éviter tout risque de répression.
David Bachet, et puis au Mali toujours, Rose Vicher a changé de lieu de détention. L'influenceuse Rokhiatou Doumbia, de son vrai nom, est en prison depuis mars 2023. Cette mère de famille avait été condamnée pour incitation à la révolte après avoir dénoncé la gestion des autorités de transition et l'augmentation des prix. Elle est considérée comme une détenue d'opinion par les organisations de défense des droits humains et par les mouvements d'opposition qui ne cessent de demander sa libération ainsi que celle de nombreux autres prisonniers. Hier, selon son entourage, Rose Vicher a quitté la prison pour femmes de Bolé à Bamako pour la prison de Diawala à 160 km à l'est de la capitale. Aucune explication à ce stade sur ce changement de lieu de détention. Et puis au nord-ouest du Sénégal, les 7 personnes interpellées dans la région du désert de Lompoul ont finalement été libérés. Ces 7 Sénégalais avaient été interpellés vendredi après s'être renseignés auprès de la société française Eramed qui exploite du zircon dans ce désert de Lompoul. Libérés, mais pas pour autant sortis d'affaires. En liberté provisoire, ils devront le 4 février prochain comparaître devant un tribunal pour participation à un rassemblement non autorisé. Ces 7 employés d'un camp touristique Ecolodge, proche de l'exploitation, demandaient à pouvoir accéder à leur lieu de travail. Et puis en football, on connaît ce soir l'affiche du match d'ouverture de la CAN 2025. Ce sera Maroc-Cobor le dimanche 21 décembre prochain au complexe Moulay Abdellah de Rabat. C'est le verdict du tirage au sort de la compétition effectué ce lundi soir dans la capitale marocaine. 11 mois avant le début de la compétition. Parmi les 6 groupes, le F sort du lot avec un choc Côte d'Ivoire, Cameroun, Babacar Diarra.
2 des 4 derniers vainqueurs de la CAN se croiseront dès la 2e journée de la phase de poule dans un groupe F où le Gabon et le Mozambique feront figure d'outsiders redoutables. Grands favoris devant leur public, les Lions de l'Atlas seront en plus des Solacans des Comores, 2 adversaires ambitieux dans le groupe A avec le Mali et la Zambie arrivés en tête dans leur phase éliminatoire. Le Sénégal en avait fait de même pour se qualifier pour sa 18e CAN, mais ce n'est pas le cas sur la route des qualifications en cours pour le Mondial 2026. La faute entre autres à la RD Congo qui se loge dans son groupe D avec le Bénin et le Botswana. Pour ce qui serait sa 5e CAN, Mohamed Salah aura dans le groupe B l'Afrique du Sud, l'Angola et le Zimbabwe comme premiers adversaires avec l'Égypte, que l'attaquant de Liverpool rêve enfin d'emmener vers un sacre continental. Grande affiche du groupe C, Nigeria-Tunisie contrastera avec le pédigré des autres nations de la poule, l'Ouganda et la Tanzanie, qui se jaugeront à 2 ans de leur CAN co-organisée avec le Kenya. Enfin, l'Algérie va faire émerger de mauvais souvenirs en défiant la Guinée équatoriale et le Burkina Faso, qui l'ont privé de 8e lors des 2 dernières CAN. Ce sera dans un groupe E, complété par le Soudan.
Babacar Diarra, il est 23h48 à Paris, place au dossier Afrique Économie. Et on s'intéresse ce soir à une entreprise malgache qui construite sur un modèle économique inhabituel, voire original. L'entreprise s'appelle Nutrizaz. Elle a été créée en 2013. Elle commercialise une farine infantile fortifiée qui est vendue sous forme de bouillie chaude en porte-à-porte dans les quartiers vulnérables des grandes villes de l'île. Chaque jour, ce sont ainsi plus de 36 000 rations qui sont distribuées. Un modèle économique atypique qui a fait ses preuves depuis une décennie. Reportage à Antananarivo, Sarah Teto.
C'est par un cri reconnaissable que la vendeuse de bouillie Koubaïne avertit les riverains de ce bidonville de la capitale de son passage imminent. L'employé de Nutrizaz, Zaz signifiant enfant en malgache, déambule d'un pas vif d'une ruelle à une autre pour vendre un maximum de rations de la bouillie qu'elle a préparée aux aurores. Comme elle, ils sont près de 200 animateurs à assurer quotidiennement la distribution de la farine fortifiée dans l'île.
Tous les animateurs de Nutriza sont des salariés, dans 75% sont des femmes issues des quartiers vulnérables.
Un modèle inclusif dont Monje Siranjamirsou, qui dirige l'entreprise sociale, est très fier.
Le système de rémunération d'une animatrice, c'est que Nutriza fournit de la matière première, l'animatrice se met à cuire et distribuer. En plus d'avoir un salaire fixe qui est 1,4 fois supérieur au SMIC malgache, hein, 600 000 arrières mensuels. Lors de chaque tournée, elle a une survente qu'elle garde pour elle, qu'une triseuse ne comptabilise pas. On n'a jamais cessé de croître depuis 2020, au fait. Et d'ailleurs, en 2023, on a atteint un chiffre d'affaires de plus d'un million d'euros, ce qui était du jamais vu. Et chaque année, normalement, une triseuse a fait une croissance d'environ 15%. Des fois, c'est 20.
Et des fois, c'est 5. L'année 2024 a en effet été très rude. Ralentissement que l'entreprise attribue à la paupérisation de la population et à la baisse de son pouvoir d'achat. Toutefois, aux yeux du GRET, l'ONG à l'origine du développement de la recette de la farine fortifiée il y a 20 ans, Nutrizaz reste une success story et Claire Caboré, sa représentante à Madagascar, explique pourquoi.
Nutrizaz est totalement autonome financièrement, même si elle reçoit quelques subventions, notamment de l'AFD, pour lui permettre soit de tester des nouveaux produits, des nouveaux services ou d'étendre son réseau de distribution dans des nouveaux quartiers populaires. Ça demande un peu de moyens que Nutrizaz n'a pas, étant donné que les marges sont très réduites. Mais si demain la subvention s'arrête, Nutrizaz est rentable. Et donc c'est une success story dans le sens où Nutrizaz arrive à vendre une bouillie totalement équilibrée et aux normes internationales en termes de qualité, à des prix abordables, parce qu'ils ont été formulés dans ce but vraiment qu'ils soient le moins cher possible pour les populations de ces quartiers-là.
Aujourd'hui, la production de ces produits est sous-traitée à des industriels partenaires. À terme, l'entreprise sociale aimerait acquérir sa propre unité de production afin de faciliter la recherche et le développement de nouveaux produits pour répondre aux besoins sans cesse croissants des populations vulnérables. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
L'actualité musicale avec Franck Baudin de la rédaction web de RFI. Bonsoir Franck.
Bonsoir Zéphirin et bonsoir à tous.
On commence notre sélection 100% féminine avec une artiste qui enflamme la scène musicale comorienne. Elle s'appelle Mala et elle est connue pour ses prestations live et surtout pour son engagement en faveur des femmes.
C'est notre correspondant à Moroni, Abdallah Mzambaba, qui nous a envoyé son portrait la semaine dernière. Malia Mohamed, que l'on connaît sous le nom de scène de Mala, est une fervente représentante de la culture comorienne. Elle vient de créer le mois dernier un événement qui fait la part belle aux femmes comoriennes. C'est le festival Gamina Power, qui veut dire « j'ai le pouvoir ». Mala est connue pour son engagement en faveur des femmes. Elle aime en parler dans ses chansons au style Afrobeats. On entend ici son dernier titre « Hello » qu'elle chante en collaboration avec le Tanzanien Barnaba Classic.
Hello, c'est le nom de cette chanson de la Comorienne Malha avec le Tanzanien Barnaba Classic. La suite de notre sélection avec du rap rond dès maintenant. Sade in the back, cause I'm a smooth operator, give me that. I've been trying to get rid of the wax, and every day they stack up trying to make me look bad.
Notre reporter Anne-Laure Le Mancel est rentrée du pays aux mille collines avec un superbe portrait de la rappeuse Angèle Mutoni. On la connaissait ici à RFI parce qu'elle avait été finaliste du prix Découverte RFI en 2016. La rappeuse et poétesse a eu le temps de peaufiner son projet musical depuis toutes ces années. Elle prépare en ce moment un tout premier album officiel. Angèle Mutoni, qui fait sensation avec son mix de hip-hop et de R&B, ambitionne de passer les frontières du Rwanda. On écoute son titre Carré. Me and my people done done it. And yet I hear no we want it. How we on it, we been on it. Kuva kare. Kare, kare, kare. Me and my people done done it. And yet I hear no we want it. How we on it, we been on it. Kuva kare.
Voilà, carré de la chanteuse rwandaise Angèle Mutoni. Et maintenant, c'est au Nigeria que vous nous emmenez, Franck, pour retrouver une jeune artiste qui connaît une ascension fulgurante.
waving a white flag, saying I surrender to you, my love. I want to confess, me I know if you do without you, my love. And if it all goes crumbling, you can call on me now.
Le royaume de l'Afrobeat a une nouvelle princesse et elle s'appelle King Madi. La chanteuse nigériane s'est fait connaître en 2022 avec son premier single, See Finish, qui a été une véritable tornade dans les charts nigérians. Aujourd'hui, elle est à peine majeure, mais elle est déjà considérée comme l'artiste la plus prometteuse du pays. Son premier album, I Am The Blueprint, est attendu ce 31 janvier. En attendant, King Madi enchaîne les singles. Le dernier en date est sorti la semaine dernière, c'est le titre Ali Bomaye qu'on écoute.
Off my feet like Ali, Ali Bomaye. Ooh, go long go my one bullet, one bullet for my head. My face, I couldn't find enough. Said my legs they couldn't walk enough. As I did for the crowd, feels like sitting out in the dark. Yeah, just like the ray of the sun in my window, you live bright in my day. Yeah, on my way. You carry my weight for me. Oh, I can't say no when you look back at me. You're the only one I've been waiting for, 'cause you carry my pain, baby. Here again, oh, I'm down on my knees. Got me singing, wombolo boma, wombolo boma, wombolo boma, eh. See you there, boss, my ugolo goma, ugolo goma, eh. You done knock me off my feet like Ali, Ali boma, eh.
Ali Bomaye, le cri des supporters de Mohamed Ali lors du combat du siècle, hein, c'était à Kinshasa en 1974, c'est aussi le titre de la Nigériane King Madi. Son portrait signé Mathieu Belloc ainsi que tous nos autres contenus musicaux sont à retrouver sur rfi.fr/musique. Merci donc à Franck Baudin pour cette chronique. Merci également à Raphaël Lazizi qui était à la réalisation. Merci également à Frédéric Garra qui est à la rédaction en chef. Il est assisté de Simon Buil-Baudin que je remercie également. Je vous remercie enfin toutes et tous pour votre attention à l'écoute de Radio France Internationale.
RFI, la sélection du mois.
Pour te dire Malik Djoudi.
C'est bon, encore merci beaucoup. Pense à nos folies, de tes sublimes, on joue parfois, c'est moi.
Nicodemus, Baba Sissoko et Jitkin. Pongo et Blackwell.
No Russian, no Wahala. Only be you come close.
Only be you. Sekou Keïta.
Toute la sélection du mois à découvrir sur RFI Musique. RFI, la sélection du mois.
I found the joy through all the pain, through all the pain I found the sun. Come there with me.
Angélique Kidjo et Davido. Sidiki Diabaté et Wally Sek.
RFI Musique.
Demain sur RFI, de vive voix,
Pascal Paradon.
Disparu prématurément il y a 30 ans, Jean-Luc Lagarce est l'un des auteurs du théâtre français le plus doué, le plus joué. Pour cet anniversaire, Joanie Berthe recrée Juste la fin du monde, sa pièce culte, un huis clos familial fait de silence et de non-dit, de peur et de retrouvailles.
De vive voix avec Pascal Paradou, du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain.
Situation des urgences en France, une crise qui n'en finit pas.
Mercredi.
La goutte, cette maladie chronique qui provoque des crises douloureuses.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.